Je vais commencer en racontant une histoire, OK? Il était une fois dans un royaume très, très lointain, un jeune homme, peut-être dans les vingtaines, qui habitait chez quelqu'un d'autre. Ce jeune homme était estropié. Est-ce que vous m'entendez maintenant? OK. Je recommence donc. Il était une fois dans un royaume très, très lointain, un jeune homme, peut-être dans les vingtaines, qui habitait dans la maison de quelqu'un d'autre. Ce jeune homme était estropié, car à l'âge de 5 ans, sa nourrice avait fui des ennemis dans une attaque à sa demeure. Et avec toute la convulsion, elle a laissé tomber le petit de ses bras. Et sans les soins médicaux que nous avons aujourd'hui pour réparer les os cassés, le garçon n'a jamais pu marcher de nouveau. Devenu adulte, il habitait dans la maison de quelqu'un d'autre, dépendant des autres pour son pain quotidien, parce qu'il ne pouvait pas travailler à une époque et dans une culture qui n'accordait pas beaucoup de valeur à des gens handicapés. De plus, ce jeune homme était probablement caché par peur de perdre sa vie. Vous comprenez? OK? Vous m'entendez? Nope. Can I just use the microphone? I don't want to use that. Please. Continue. OK. Seigneur, on prie que les distractions ne distraient pas de ta parole. En ton nom, Jésus. Amen. De plus, ce jeune homme était probablement caché par peur de perdre sa vie. Vous comprenez, il était le petit-fils de l'ancien roi. Pourquoi n'était-il pas au palais, donc, demandez-vous? Il était le seul survivant de son père après que lui et son grand-père, qui était l'ancien roi, soient vaincus en bataille. Cette bataille a déclenché une longue guerre civile. Et à la fin de cette guerre civile, un nouveau roi, pas celui de la famille de cet homme, est monté sur le trône. Et dans cette culture et à cette époque, quand un nouveau roi s'établissait, il tuerait tous les membres de la famille de l'ancien roi afin d'éliminer la possibilité d'un renversement de son pouvoir. Donc, de plus, avant que le nouveau roi soit devenu roi, son grand-père l'a poursuivi pendant des années afin de le tuer. Donc, ce jeune homme avait raison de penser que le roi le tuerait. Ne serait-ce que vengeance, n'est-ce pas? Sa vie était en danger et pour lui, c'était un miracle que, même après quelques années, personne ne l'avait pas encore découvert et qu'il soit toujours en vie. Ce jeune homme, appelé Mephibosheth, a eu un réveil brutal un jour lorsqu'un ancien serviteur de son grand-père a cogné à la porte. « Tiba, que fais-tu ici? Cela fait des années depuis que je t'ai vu. Que veux-tu? » « Je suis ici pour toi, Mephibosheth. Il faut venir avec moi. » « Mais pourquoi? Que je fais? Que veux-tu? » Ce n'est pas moi, c'est le roi David. Il faut venir avec moi. Il veut te voir. Il faut revenir avec moi à Jérusalem pour se rendre au palais. Le roi t'attend. Le visage de Mephibosheth est devenu complètement blanc. Alors, il m'a finalement retrouvé. Donne-moi un peu de temps. Je veux faire mes adieux. C'est ainsi que l'ancien fils de Jonathan, petit-fils de Saül, est venu au palais du nouveau roi David. Nous lisons en 2 Samuel 9, « Lorsque Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, fut arrivé chez David, il s'inclina face contre terre et se prosterna devant lui. » Peut-être son cœur espérait que le coup meurtrier viendrait vite et sans souffrance. Mais écoute ce qu'il a entendu. Mephibosheth, oui mon roi, c'est moi ici pour te servir. Mais n'aie pas peur. Je t'assure, je veux te traiter avec gentillesse. Mephibosheth tira son oreille. Il avait du mal à entendre. Ce n'est pas possible. N'aie pas peur. Mais non, voilà encore. Le roi David s'adressait de nouveau. Mephibosheth, n'aie aucune crainte. Ton père Jonathan était mon meilleur ami et je veux honorer notre amitié en te traitant avec gentillesse. Je veux te redonner tout ce qui t'appartient, ton héritage. Mephibosheth répond, « Mais qu'est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui? Je ne vaux plus qu'un chien mort. » Mais David répond en allant encore plus loin dans la bénédiction et la gentillesse. Il a relevé Mephibosheth en disant, « Je veux que tu viennes habiter chez moi à Jérusalem, que tu demeures au palais, que tu manges à ma table. » Pour le restant de ta vie, je veux te traiter comme un de mes fils. Incroyable. Ainsi, Mephibosheth mange à la table royale comme s'il était l'un des fils du nouveau roi David. Pas seulement le fait d'être pas tué, mais aussi de vivre comme un fils du roi. Quelle grâce, quelle chance, quel bonheur. Je crois sincèrement que cette histoire est inclue dans la Bible parce qu'elle nous donne un portrait incroyable de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Nous nous retrouvons tous dans l'histoire de Mephibosheth, estropié, brisé par le péché de ce monde. Et ensemble, nous disons avec lui, « Qu'est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui? Je ne vaux plus, pas plus qu'un chien mort. » Mais Dieu, qu'est-ce qu'il répond? N'aie pas peur, je veux que tu viennes manger avec moi à ma table pour le reste de ma vie, pour le reste de ta vie. Par Jésus, nous sommes invités à la table du Père. Il a payé le prix pour nos vies brisées, cassées. Toutes nos émotions, toutes les parties indésirables de nos corps et nos esprits, le péché qui nous habite. En venant à lui par un simple acte de foi, il nous lave, il nous réhabille dans sa justice. L'histoire de Mephibosheth est l'histoire de chaque personne qui accepte par la foi la grâce qui est offerte en Jésus-Christ. Nous devenons enfants adoptés de Dieu, co-héritiers avec Jésus. Écoutez ces mots de Romains 8, 15 à 17. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. C'est juste incroyable. Pensez pour un moment d'être un co-héritier avec Christ. Tout ce qui appartient à Christ appartient à nous aussi. C'est vraiment une bonne nouvelle. On a une bonne nouvelle à partager avec le monde, n'est-ce pas? Mais j'ai une question. Si c'est une bonne nouvelle, pourquoi autant de chrétiens ne vivent pas comme un fils ou une fille du roi de l'univers? J'aimerais vous suggérer quelque chose ce matin, que nous avons la difficulté à vraiment sortir de l'eau de bord pour rentrer à Jérusalem, pour vivre comme la royauté. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Dans l'histoire de 2 Samuel 9, 4 et 5, les versets 4 et 5, nous lisons ceci. Le roi David demanda, « Où vit-il ?» en parlant de Mephibosheth. Siba répond, « Dans la maison de Makir, un fils d'Amuel, à Lodebar. » Où se trouvait Lodebar? Le village où Mephibosheth se cachait pendant toutes ces années. On ne sait pas à 100%, mais on pense que c'était un village qui était un peu plus au nord d'Israël, dans le désert, dans l'est de la vallée de Jordan, au bord de la civilisation, un lieu désert. Et le nom Lodebar signifie « pas de pâturage », un lieu désert. Mais on peut aller même plus loin. Si on décortise le mot, ça peut aller dire jusqu'à rien, nul, rien là que les nuls. Ça doit affecter la mentalité d'une personne, n'est-ce pas, de vivre d'une place comme ça? En plus, le nom Mephibosheth signifie la honte ou de la bouche de la honte. Bonjour, je m'appelle la honte, je suis estropié, un orphelin qui se cache par peur de perdre ma vie et j'habite dans un village de rien. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous croyez qu'il se peut que Mephibosheth ait la difficulté à vraiment saisir sa place à la table de David? Même s'il est sorti de l'eau de bord physiquement, qu'il continuait à agir comme il était toujours à l'eau de bord, un orphelin? Est-ce qu'il se faisait énerver par la peur et les doutes qu'un jour le roi David changerait ses idées? Est-ce qu'il se comparait à d'autres en se demandant s'il était digne d'un traitement si bien et éventuellement la bonne fortune se tira à sa fin? Qui sait? La Bible ne nous raconte pas cette histoire. Mais voici la vérité. Je connais beaucoup de chrétiens, moi inclus, qui vivent encore comme j'étais à l'eau de bord. Nous sommes invités à la table du Père, mais on continue d'agir d'une façon comme on était un orphelin. Des fois, notre théologie dans nos têtes, même ce qu'on dit par la bouche, est différent de notre théologie du cœur. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, nous vivons d'ici, n'est-ce pas? Pas ici. Si on a cette identité comme orphelin, nous allons agir comme un orphelin. Ça va être dans nos réactions, dans nos réflexions, nos émotions. Mais à quoi ressemble-t-elle une mentalité d'orphelin? Vous connaissez peut-être des histoires de Deuxième Guerre mondiale où les orphelins étaient ramassés à la faim. Et maintenant, dans une place où leur pain quotidien était assuré, ils continuaient d'agir comme s'ils n'avaient pas ce besoin comblé. Et les enfants avaient peur, ils cachaient la nourriture dans les poches. Et même, j'ai entendu l'histoire qu'il y avait dans un de ces places où ils rassemblaient les orphelins, que les orphelins ne voulaient pas dormir. Mais s'ils laissaient l'enfant prendre un morceau de pain pour mettre dans le lit avec lui, là, l'enfant était capable de se calmer et de dormir parce qu'ils n'avaient pas peur que le lendemain, il n'y aura plus de pain. Donc, pour nous, qu'est-ce que ça ressemble d'avoir une mentalité d'orphelin? Ça peut ressembler à plein de choses, mais voici quelques petites choses. On se referme sur soi-même, on est sur la défensive, on ressent l'insécurité parce que nous nous imaginons que nous ne pourrons jamais être suffisant bons. Il faut se débrouiller toute seule, on cherche des moyens d'obtenir ce dont on a besoin, de peur de ne pas avoir assez. Peut-être on a l'impression de vivre constamment dans l'angoisse et dans l'inquiétude parce que nous ne sommes pas convaincus de notre identité. Des fois, une mentalité d'orphelin peut ressembler à de l'opportunisme égoïste parce que nous essayons d'obtenir par tous les moyens qui se présentent ce dont nous avons besoin ou pensons avoir besoin. C'est vivre dans une mentalité de pauvreté plus que une vie d'abondance. Des fois, ça se manifeste comme la honte, une pauvre image de soi, la dépression, toutes ces choses. Et j'aimerais juste prendre une trentaine de secondes pour juste demander au Saint-Esprit si il y a quelque chose dans nos vies qui veut souligner une place où notre identité est encore une identité d'un orphelin au lieu de notre co-héritage avec Christ. OK? Le Saint-Esprit nous parle quand on demande des questions, n'est-ce pas? Oui. OK. Donc, Saint-Esprit, juste dans ce moment, on veut te demander, est-ce qu'il y a un certain aspect d'une mentalité d'orphelin dans nos vies? Est-ce qu'il y a une bannière sur nous avec un mot écrit qui ne vient pas de toi? Si c'est le cas, Saint-Esprit, montre-nous maintenant. OK. Gardez ces pensées en tête. Pourquoi nous avons cette mentalité, la difficulté de saisir l'amour et le cœur du Père pour nous? Pourquoi luttons-nous pour recevoir l'amour du Père? Il pourrait y avoir toutes sortes de raisons. En partie, des fois, c'est à cause de l'exemple de nos pères qui étaient absents ou focuser sur la performance, toutes sortes de choses. Même si on a eu un bon père comme exemple en tant qu'enfant, juste le péché de ce monde défait notre identité, n'est-ce pas? Ça nous arrive des expériences qui ne sont pas de Dieu et des mensonges viennent s'installer dans nos vies et oups, on forme une identité autour de ce mensonge au lieu d'autour de la vérité de Dieu. Et des fois, ça prend du temps pour tout réaliser et guérir ces choses-là dans nos vies. Quel est l'opposé d'une mentalité d'orphelin? Lisons en Éphésiens 1, versets 3 à 6. J'aime tellement ces versets. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints, et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Je continue un peu. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse, pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. C'est incroyable, n'est-ce pas? La feuille que mes enfants a passée tout à l'heure, prenez-le juste pour quelques moments. On n'a pas le temps ensemble ce matin d'aller dans tous les aspects de notre héritage en tant que chrétien. Ça prend presque une vie de tout découvrir, n'est-ce pas? Mais j'ai écrit une partie, juste quelques-uns de notre héritage. Et j'ai mis des versets à côté. Et je vous encourage cette semaine de prendre le temps. À la fin, on va demander au Saint-Esprit encore quelques questions. Mais de prendre le temps pour méditer sur ces passages. Et méditer sur, demander au Saint-Esprit l'aspect de ton héritage, votre héritage, à ce point de votre vie qui veut illuminer pour vous. Pour moi, peut-être c'est une chose, pour toi, peut-être c'est une autre. Mais on a chacun besoin de saisir encore plus profondément notre héritage en Dieu. Donc voilà quelques-uns. Qu'est-ce qu'on a en Christ? On a la sécurité. On a l'exemple incroyable de Jésus dans le bateau au milieu de la tempête, n'est-ce pas? Ça, c'est le portrait de la sécurité et la confiance en Dieu. Je ne suis pas rendue là, mais c'est là que je m'en vais. Absolument. L'approbation. Dieu nous aime. On a un accès au Père. C'est un peu comme on a le numéro de cellulaire d'un célèbre. N'est-ce pas? On n'a pas besoin de passer par le secrétaire et toutes les personnes qui nous empêchent de... Non, on a accès direct au Père. On a la provision. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous pouvez demander à Dieu pour vos besoins. Il va pouvoir. On a le soutien. Il nous aide dans tout. Avez-vous déjà pensé que Dieu... Le Saint-Esprit est votre mentor. On aimerait tous avoir un bon mentor, n'est-ce pas, qui nous guide, qui nous dirige, qui nous montre la voie devant nous par la sagesse. Mais le Saint-Esprit est votre mentor. Incroyable! On a une discipline saine dans nos vies. Dieu nous aime tellement en tant qu'enfants qu'il nous discipline. Moi, quand je vois d'autres enfants qui sont en train de mal comporter, tant mieux, ce n'est pas à moi de discipliner. Mais quand c'est mes enfants, je les guide. C'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité de les guider, de les discipliner. Et c'est comme ça que Dieu nous voit aussi. C'est sa responsabilité de nous guider dans la discipline, de nous ramener sur le chemin. Si on a peur que peut-être on va aller croche dans notre vie, on peut avoir cette confiance que Dieu va nous ramener par sa discipline sainte. On a hérité le nom de Dieu. On est enfant de Dieu. On a son nom écrit sur nous. Donc, tout à l'heure, quand j'ai demandé au Saint-Esprit, c'était quoi le bannière, le nom sur le bannière sur nous? On va demander, comment est-ce que tu veux le remplacer? C'est quoi le nom que toi, tu veux me donner? Je veux que ça soit ton nom que je porte sur ce bannière. On a l'affirmation et on va faire un petit exercice à la fin pour nous affirmer dans l'amour de Dieu. Se rechercher auprès de notre identité, se débarrasser d'une mentalité d'orphelin, ça peut prendre beaucoup de temps. Et des fois, on a eu des expériences assez dures dans la vie qu'il faut se mettre dans une place où on reçoit un enseignement et peut-être même un cheminement avec quelqu'un d'autre pour prendre le temps pour vraiment creuser et s'en débarrasser. Et c'est une place comme renversons les forteresses qui est tellement bon pour cela. Et je crois qu'il y a des gens ici qui ont déjà expérimenté qu'est-ce qui se passe dans la vie quand on prend ce temps. Aussi, c'est juste passer du temps avec le Père à chaque jour, n'est-ce pas? Parce qu'on continue de recevoir des messages du monde pour notre identité. Donc, si je ne vais pas à chaque jour pour raligner avec ce que Dieu pense de moi, c'est pas long avant que mes pensées peuvent être un peu ramenées dans une direction qui ne vient pas de lui. Donc, juste aller voir à chaque jour avec le Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis de moi? Qu'est-ce que toi tu penses de moi? C'est un peu comme des fois, on a des blessures. Et c'est comme Dieu enlève le pansement pour nettoyer un petit peu, n'est-ce pas? Et, OK, on referme, ça va guérir un peu encore. Et dans une autre semaine, je l'enlève encore, je nettoie. C'est ça qui fait cette habitude quotidiennement d'aller voir avec le Père ce qu'il pense de nous. Et des fois, on a certaines expériences dans la vie qui nous poussent à un autre niveau. Et moi, je veux vous raconter mon histoire. La semaine passée, vous avez entendu un petit peu de mon histoire, mais je n'ai pas raconté une grande chose qui s'est passée il y a quelques années. Parce qu'on a... On ne reçoit pas tout ça au début de nos vies chrétiennes. Des fois, ça prend du temps. Donc, en 2012, comme quelques-uns d'entre vous savez, j'étais diagnostiquée avec un cancer du sein assez sévère, un stade 3, et j'étais malade. J'ai passé par un an et demi de traitement. Et en partie pendant ce temps de traitement, j'ai dû passer par la chimio. Ça, c'est la photo de moi à la fin de mes traitements. On rit, mais ce n'était pas drôle. Non, ce n'était pas drôle du tout. J'étais assez malade à ce point-là. Et à la fin de mes traitements de chimio, il m'est arrivé une chose qu'on espère n'arrive pas, mais pour moi, même si les gens ont prié et tout, j'ai eu ce qu'on appelle une neutropénie. Ça veut dire que j'avais aucune cellule blanche qui restait dans mon corps. Donc là, je me suis réveillée la nuit avec une fièvre. Il nous dit, si ça vous arrive, il faut venir à l'hôpital tout de suite. Donc, c'est ça que j'ai fait. Même Troy était à une retraite des jeunes, mais le Seigneur a tout pris soin de nous. Et donc, mes parents m'ont amenée à l'hôpital et c'est ça que j'ai eu. Et j'ai dû passer une semaine à l'hôpital pour recevoir des antibiotiques. Mais en plus, j'ai eu le C difficile pendant que j'étais à l'hôpital. Donc, j'étais malade. Et même aujourd'hui, je veux juste dire, gloire à Dieu, je suis toujours là. Amen. Mais écoute, c'est souvent dans ces moments-là où on est à notre plus bas physiquement que là, ouf, finalement, nos cœurs sont dans une place qu'on peut vraiment entendre ce que Dieu a à nous dire. Et c'était dans l'hôpital une nuit que Dieu m'a parlé de mon identité, que je luttais depuis des années. Parce que j'avais une certaine théologie dans ma tête. Je disais que j'étais sauvée par la grâce. C'est ça que je croyais ici. Mais quand j'ai dû faire face à la possibilité d'un mort active. Là, j'ai vu la vérité. Et la vérité, c'était que je pensais que je n'avais pas assez fait du bien dans ma vie. C'était comme il y avait une balance. Et la partie de ce que j'ai mal fait pesait plus que le bien que je faisais. C'est toute croche. J'aurais jamais dit que c'était ça que je croyais. C'était pas la théologie de ma tête, mais j'avais tellement peur de mourir parce que je pensais faire face à Dieu et qu'il serait pas, il m'accepterait pas parce que j'avais pas assez bien fait dans ma vie. Et je luttais avec ce sentiment de condamnation depuis des années. Je ne sais même pas d'où ça vient. C'est juste le péché, juste le mensonge de l'ennemi. Mais dans la nuit, dans cette chambre d'hôpital, Dieu a tendu la main vers moi. Et j'ai écouté un chant que Troy et Naomi vont chanter tout à l'heure, qui parle de l'histoire de Mephibosheth. Et le Seigneur m'a donné une vision tellement claire et forte que ça m'a amené dans un chemin de guérison que je ne pouvais pas inventer moi-même. Dans cette vision, j'étais dehors dans la neige et le froid, à côté d'une grande, grande maison. Je regardais par toutes les fenêtres. À l'intérieur, il y avait un grand banquet, une fête. Il y avait la joie et du bonheur. Les gens riaient et mangeaient vraiment de la bonne bouffe. Et moi, j'étais dans le froid, mal habillée dans ma petite jaquette d'hôpital avec tous ces effets de la chimio. Je cognais à la porte et aux fenêtres, mais c'était comme si personne ne m'entendait. Je pleurais parce que je voulais tellement entrer. Finalement, je me suis découragée, j'ai tourné le dos pour sortir de la cour, découragée et rejetée. Quand j'entendis une voix qui m'appelait, Laurie, je suis ici. Je te cherchais. Je veux que tu viennes avec moi, que tu prennes place à côté de mon père, notre père. Viens, je t'amène dans mes bras. Je sais que tu es trop faible pour marcher. Cette vision de l'amour de Dieu pour moi a débuté un processus de guérison dans ma mentalité d'orphelin profonde. Au lieu de se voir comme jamais assez bon pour atteindre le faveur et l'amour de Dieu, j'ai commencé une vie spirituelle de repos en lui, de croire vraiment que j'étais aimée par le Père profondément et que je n'avais pas besoin de me prouver. Je n'avais pas besoin d'aller chercher cette approbation qui m'aimait tel que j'étais, tel que je suis. Et je peux vous dire, ça a tout changé pour moi. Tout. Je veux que Troy et Naomi chantent ce chant. Et pendant qu'ils chantent, encore là, je veux que vous demandiez la question à Dieu, au Saint-Esprit. Quel est l'aspect de mon héritage ou le nom que toi tu veux me donner, que tu veux remplacer l'autre? OK, on va écouter ce chant et je vais revenir avec une parole que je veux vous lire de la Bible.
Je vais chanter en anglais, mais voici la traduction.
Wounded and forsaken, I was shattered by the fall. Broken and forgotten, feeling lost and all alone. Summoned by the King,
Voilà ce que Dieu dit de toi. Écoutez bien, peut-être avec les yeux fermés si vous voulez. Je te sonde et je te connais. Quand tu es assis et quand tu te lèves, je le sais. De loin, je discerne tout ce que tu penses. Je sais quand tu marches et quand tu te couches. Tous tes chemins sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur tes lèvres, je le sais déjà tout ce que tu vas dire. Je suis devant toi et derrière toi. Je t'entoure. Ma main est sur toi. Où pourrais-tu aller loin de mon esprit? Où pourrais-tu fuir hors de ma présence? Si tu montes au ciel, je suis là. Si tu descends au séjour des morts, me voici. Et si tu t'empruntais les ailes de l'aube pour me réfugier, de te réfugier aux confins des mers, là aussi, ma main te dirigeait, mon bras droit te tiendrait. Si tu te dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de toi. Parce que pour moi, les ténèbres deviennent lumière et la nuit est claire comme le plein jour. Je t'ai fait des merveilles et je le reconnais bien. Ton corps n'était pas caché à mes yeux quand dans le secret, je t'ai façonné et tissé dans les profondeurs de la terre. Quand tu n'étais encore qu'une masse informe, je te voyais. Et dans mon registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que moi je t'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien mes desseins sont pour toi impénétrables et innombrable. Je suis encore avec toi. J'aimerais inviter le groupe de louanges de venir et on va chanter quelques chants. Mais je vous encourage, si vous avez besoin de prier, si le Saint-Esprit vous parle, vous pouvez juste tourner à côté de la personne. Des fois, il faut saisir ce moment que Dieu nous parle, n'est-ce pas? Donc, s'il y a quelque chose que tu dis, non, je ne veux pas partir d'ici avant de prier, juste tourner à côté, ils vont chanter tranquillement, doucement, pour commencer. Si vous voulez prier avec quelqu'un, juste prends ce moment de le faire.